du Borno 15 ans après la terreur de Boko Haram. Il ne peut pas produire l'acte de naissance de son père, né il y a plus d'un siècle au Gabon, et pour cela, le syndicaliste Jean-Rémy Yama voit sa candidature retoquée pour l'élection présidentielle gabonaise. Il dépose un recours, mais on décryptera cette question de l'état civil gabonais justement. Est-ce un vrai problème? On verra ça avec le chercheur Bergès Mieté. Les conséquences du chantier de Simandou en Guinée, gisement de fer dont l'exploitation est attendue pour cette année. Ce sera la suite de notre dossier Afrique Éco. L'humeur de Maman qui nous parlera lui d'un autre business, un drôle de business, celui de la guerre. Mais d'abord, ce sont les terrains de sport qui nous attendent. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Du foot pour débuter votre journal et rendez-vous ce soir sur RFI pour une soirée spéciale Ligue des Champions s'il vous plaît pour les premiers huitièmes de finale retour.
À partir de 19h40 temps universel pour suivre notamment le déplacement du Paris Saint-Germain à Anfield Road sur le terrain de Liverpool. Battu 1-0 au match aller, les Parisiens n'ont pas perdu tout espoir, tout comme le Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba qui a pourtant 3 buts à remonter face au Bayern Munich. Une affaire mal embarquée, mais l'entraîneur Xabi Alonso y croit dur comme fer.
Nous y croyons parce que nous avons fait quelque chose de plus difficile. La saison dernière, nous avons remporté la Bundesliga sans perdre un seul match. Pour moi, c'est plus difficile. Les joueurs le savent aussi. C'est important car si les choses vont dans notre sens, cela pourrait avoir une influence positive.
Bayer Leverkusen, Bayern Munich, coup d'envoi du match à 20h, temps universel, tout comme Inter Milan Feyenoord, une soirée de Ligue des Champions à suivre sur RFI et qui aura commencé à 17h45, temps universel avec le Barcelone, le FC Barcelone qui reçoit Benfica.
Et on sera bien sûr au rendez-vous, c'est bien noté Antoine. D'ici là, en Afrique, les listes tombent une à une en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde avec les champions d'Afrique en titre entre retour et absence marquante.
Emers Faé, le sélectionneur ivoirien a décidé de se passer des services de Seko Fofana, légèrement blessé, et de Wilfried Zaha, pour qui la porte reste toutefois ouverte. Retour en revanche pour Sébastien Haller et Jean-Philippe Bamin, les Ivoiriens qui affronteront le Burundi et la Gambie pour les 5e et 6e journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Autre liste, celle de la Guinée avant les matchs contre l'Ouganda et la Somalie, et des choix forts, l'absence de Mohamed Bayo, l'attaquant d'Antwerp, et de Moriba Kourouma, pourtant performant avec le Celta Vigo. Michel Dussuyer leur a préféré un petit nouveau, Ibrahima Sori Bangoura, le milieu de Genk en Belgique, convoqué pour la première fois.
Et une autre liste encore, Antoine, celle du Bénin.
Et des retours, ceux du défenseur de Châteauroux, Brandon Agounon, et de Rabiou Sankamao du Wydad Casablanca. Et première convocation pour Candace Fiogbe, le prometteur attaquant de la réserve de l'Atalanta Bergame. Avec toutes ses forces vives, les Béninois rêvent d'une première qualification à une Coupe du Monde sous les ordres de leur sélectionneur Gernot Rohr.
Les grands rêves font les grandes actions. Et donc, on a le droit de rêver, les joueurs avec moi. C'est pour ça qu'on tient à conserver l'équipe qui a des automatismes, un peu de complicité que nous avons trouvé à travers nos matchs à Abidjan, mais aussi à l'extérieur. Tous les matchs à domicile que nous avons faits depuis qu'on est là, depuis 2 ans, on n'en a perdu aucun. Donc on tient à conserver cette série. La première tâche, c'était la qualification pour la CAN. La deuxième tâche, maintenant, ça va être se qualifier pour la Coupe du Monde. On sait que c'est ambitieux. Dans un groupe difficile avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Rwanda, mais nous sommes quand même confiants et on le fera toujours avec plaisir.
Gernot Rohr avec Théophile Azal et Guépard qui affronteront le Zimbabwe et l'Afrique du Sud.
Et les résultats, ce sera bien sûr sur RFI. Merci Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce mardi 11 mars 2025 et les autorités syriennes qui ont annoncé hier la fin de l'opération militaire dans l'ex-bastion de Bachar el-Assad dans l'ouest du pays, opération qui se solde par la mort de plus de 1000 civils, surtout issus de la minorité alaouite. C'est un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui fait aussi état de 231 morts dans les rangs des forces gouvernementales et 250 du côté des insurgés. Moscou visée par une attaque de drones ukrainiens cette nuit, selon le maire de la capitale russe, et cela alors que l'Ukraine doit exposer aux États-Unis lors d'une réunion en Arabie Saoudite un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie dans l'espoir de retrouver le soutien de Washington après le récent cataclysme dans les relations. Le Groenland aux urnes aujourd'hui pour des législatives qui pourraient esquisser un calendrier menant à l'indépendance. convaincu de pouvoir s'emparer du territoire autonome danois de 57 000 habitants. Donald Trump, lui, a tenté jusqu'à la dernière minute de peser sur le scrutin. Dans la nuit de dimanche à lundi, le président américain a de nouveau promis sur son réseau social Truth, sécurité et prospérité aux Groenlandais qui souhaiteraient faire partie de la plus grande nation du monde. Comment la ville de Maïdougouri et ses habitants se sont reconstruits? On referme ce matin notre mini-série de reportages débutée hier sur place au Nigeria, dans la capitale de l'État du Borno, qui fut il y a 15 ans le théâtre de l'insurrection des djihadistes de Boko Haram. Mais aujourd'hui, il y a du mieux dans cette région du lac Tchad. Des millions de personnes qui avaient fui ont pu revenir. Des jeunes se projettent aujourd'hui sur place et veulent s'y construire une vie, à l'image de ces entrepreneurs et entrepreneuses que notre correspondant Moïse Gomis a rencontrés, pour qui la migration, pour qui l'exil n'est pas une option envisageable.
Saleh Babagana répond à un client sur sa montre connectée. Revendeur de téléphones d'occasion dans les rues de Maïdougouri il y a encore 4 ans, ce grossiste distribue désormais des marques premium de smartphones dans une boutique climatisée. À 28 ans, Saleh n'a pas du tout l'intention de quitter le Nigeria.
Tout a commencé comme un pari pas très sérieux. Un ou deux clients nous ont fait confiance et maintenant nous sommes bien établis en tant qu'entreprise. Beaucoup de nos clients viennent des pays voisins qui utilisent le CFA. Ils achètent nos produits au prix de gros, entre 1000 et 2000 pièces de smartphone. Et parfois jusqu'à 5000 appareils d'une certaine marque de téléphone ont été achetés ici.
Comme Saleh, Adjara a vécu toute son adolescence à Maïdougouri. Sous ses yeux, elle a vu mourir un camarade de classe, puis échapper à un attentat à la bombe. Malgré ses traumatismes liés à Boko Haram, cette dirigeante de PME n'a jamais envisagé de quitter sa ville.
Avant d'ouvrir mon magasin, je faisais mes affaires à la maison. À cause des explosions de bombes et de Boko Haram, c'était la panique. Les gens s'enfuyaient de chez eux. Cela n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous sommes bien débrouillés pour survivre.
Aujourd'hui, Adjara emploie une dizaine de personnes et les parfums d'intérieur qu'elle crée s'exportent au Niger, Cameroun, mais aussi au Ghana et jusqu'au Canada. Adjara se sent épanouie en vivant et en travaillant à Maïdougou.
J'ai choisi de rester pour inspirer les jeunes femmes d'ici. Beaucoup ont l'impression qu'on ne peut pas s'accomplir et que nous ne pouvons pas y arriver dans la vie. Alors que ce n'est pas le cas. Quelle que soit notre personnalité, on peut réussir chez soi. Tout ce qu'on souhaite dans la vie, on peut le réaliser. Alors migrer, ce n'est pas une option pour moi.
Et Adjara ne comprend pas pourquoi au Nigeria, des dizaines de milliers de gens de sa génération se risquent à tout sacrifier pour un visa pour l'Amérique ou pour l'Europe. Moïse Gomis, de retour de Maïdougouri, RFI.
Notre reportage sur la résilience de Maïdougouri au Nigeria. Deux épisodes à retrouver sur Internet, bien sûr, comme tous nos contenus. Ils étaient 23 prétendants pour l'élection présidentielle prévue le mois prochain au Gabon. Mais pas moins de 19 dossiers ont été recalés pour des raisons diverses. Celui notamment du syndicaliste Jean-Rémi Yama. Vous l'avez entendu peut-être hier sur RFI. Sa candidature est refusée car il n'est pas en mesure de présenter l'acte de naissance de son père né en 1920. Mais il conteste cette décision devant la Cour constitutionnelle. Pour en parler, Bergès Mietté, notre invité ce matin, enseignant à l'Université internationale de Libreville, chercheur associé au laboratoire des Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Au micro de Christophe Boisbouvier, il nous explique que cette question de l'état civil des Gabonais est bel et bien un problème aujourd'hui.
Alors, au Gabon, il y a effectivement un problème d'état civil qui ne concerne pas que Jean-Rémi Yama, beaucoup de personnes. Je pense que, étant donné que les autorités sont conscientes de cette question-là, le problème d'état civil, je pense qu'il devait y avoir des mécanismes permettant de faciliter l'accès d'établissement des jugements supplétifs, ne serait-ce que pour des candidats qui aspirent à la magistrature suprême.
Alors, Jean-Rémi Yama introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Pour sa défense, il dit deux choses. Un, qu'en 1920, l'année où son père est né, le Gabon n'existait pas administrativement, et deux, qu'il est inscrit sur son acte de naissance à lui que son père et sa mère sont gabonais. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle vont être en mesure d'entendre ces deux arguments ?
On l'espère, tout simplement. Dès lors que la nationalité des parents figure bel et bien sur le document d'état civil du concerné, je pense que les juges en tiendront compte.
Et si le recours de Jean-Rémy Yama est rejeté, est-ce qu'on pourra parler d'excès de formalisme ou d'une décision politique?
Je pense qu'on parlera plutôt d'excès de formalisme, quand bien même on peut tenir compte des deux éléments, puisque à la différence d'autres candidats, Jean-Rémy Yama apparaît davantage comme le candidat anti-système. Je pense que Jean-Rémy Yama tente d'incarner la nouvelle opposition gabonaise en construction. Et pour ce scrutin-là, pour beaucoup, l'idéal serait qu'il participe effectivement.
Voulez-vous dire que s'il ne peut pas se présenter, beaucoup de Gabonais diront qu'il a été écarté parce que le général Oligui Nguema en a peur?
Je pense que cette idée-là pourrait effectivement être mobilisée. Maintenant, si sa candidature est retenue, on verra sur le terrain comment il va se déployer.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec l'enseignant-chercheur Bergès Mietté, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes sur notre antenne vers 6h45 heure de Paris. Afrique Économie, le rendez-vous avec l'économie du continent sur la radio du monde. Et on retourne à présent en Guinée pour la suite de notre série sur le projet de mine de fer à Simandou. Chantier incluant un chemin de fer, un port, on l'a entendu hier, avec la crainte des pêcheurs locaux. Un chantier qui impacte plus largement les habitants. Évidemment, certains doivent même quitter les lieux, comme c'est souvent le cas pour construire ce type d'infrastructure. Des compensations financières sont prévues, mais celles-ci créent parfois des tensions, des divisions. C'est ce qui s'est passé dans le village de Sungania, au sud de Conakry, comme l'a constaté Alexis Bédu.
Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Vous voyez, regardez.
Avant, vous aviez de l'eau.
Oui. On avait de l'eau. On avait une grande fleuve ici. Ils ont arraché tout.
Il a une vingtaine d'années et la rage en lui.
On n'a rien ici. On n'a pas de l'hôpital, des marchés, rien. Même de l'eau à boire. Les jeunes ne travaillent pas. Regardez-nous.
Son village est sur le tracé du chemin de fer en construction, tout près du port minéralier. Il en veut aux autorités et aux sociétés minières, car il a l'impression que le projet Simandou ne lui a rien apporté, ni emploi, ni sérénité. Et quand il passe à Conakry, la capitale...
Quand vous descendez là-bas, ils vont vous dire que vous êtes les boss, il y a un grand projet chez vous, il y a le grand port de la Guinée qui se trouve chez vous, vous êtes les boss. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe ici.
Et ce qu'il se passe ici, à écouter les villageois, c'est un boulot. Bouleversement total dans les communautés. Les compensations financières octroyées par les sociétés minières ont chamboulé la vie de certaines familles, explique ce villageois.
Quand il y a compensation, les sommes sont si faibles que ça crée des divisions dans les familles. C'est tellement peu qu'on a du mal à se partager l'argent. Là où nous sommes, la famille de cette maison a été confrontée à ce problème. Il y a eu un conflit entre les frères et certains ont dû partir.
Les entreprises ont l'obligation légale de compenser les propriétaires terriens impactés par le projet. Chaque entreprise déroule son propre mécanisme et ils sont très disparates. Mamoudou Yula est un habitant de Sungaya.
Ici, pour un domaine d'un hectare, les sociétés ont donné entre 35 et 40 millions de francs guinéens.
35 millions, 40 millions.
Soit environ 4 000 euros. Près de Farana l'année dernière, les habitants de deux villages, Laya Sando et Laya Doula, se sont violemment affrontés à plusieurs reprises à cause d'un différend lié aux compensations versées par Winning Consortium Simandou. Oumar Totiabari est directeur exécutif de l'Observatoire guinéen des mines et métaux.
Le long du corridor, on a assez de familles aujourd'hui qui se retrouvent devant les tribunaux déchirés pour la gestion de cette compensation. C'est des montants énormes qui se chiffrent parfois à des milliards de francs guinéens qui sont en jeu entre des familles et des personnes. Il y a ce manque de préparation des communautés mais aussi des instances de gouvernance locale parce que derrière, il n'y a pas un cadre réglementaire suffisamment robuste.
Alexis Bédu de retour de Sungaya, RFI.
Afrique Économie qui nous donne rendez-vous demain à la même heure pour écouter le dernier volet consacré à ce projet Simandou. 5h55 à Paris. En attendant de retrouver Andréane Mellard pour RFI Matin dans un peu plus de 4 minutes. L'humeur de Maman qui nous parle, lui, d'un business d'un genre tout à fait particulier. La guerre. Eh oui, Maman, elle fait, nous dites-vous, les affaires de beaucoup de gens.
Oui, comme dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un dicton valable en tout temps, partout, que ce soit en politique, dans les affaires, en football, au bureau, au quartier et surtout en temps de guerre. Et oui, le désordre et le chaos peuvent devenir des opportunités pour les plus malins et les plus vigilants. Et là, mon ami, je ne te parle pas de la stratégie du chaos, chère à tous les conglomérats va-t-en-guerre qui, à chaque guerre, jouent les camions balais pour ramasser la mise pendant que les ruines sont encore fumantes. Tous ces petits malins qui gagnent des contrats pour reconstruire les bâtiments rasés, les ponts bombardés, les routes éclatées, tous ces messieurs bien habillés et bien introduits et surtout bien informés qui récupèrent les barils de pétrole, les kilos d'or et de coltan, les carats de diamants, les billes de bois. Je te parle pas non plus de ces commerçants qui trouvent que la guerre, ben c'est comme Noël, Ramadan et Tabaski. Il faut en profiter pour augmenter les prix de tous les produits de première nécessité. Mon ami, je te parle d'autres personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, mais qui étaient assises, la tête dans les mains, se demandant comment se sortir de leurs problèmes et puis boum, voici la guerre à l'autre bout du monde, voici la guerre à la une de tous les médias. Prends par exemple notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Il y a juste quelques jours, mais tout le monde l'embêtait, comme quoi il malmène trop l'opposition et la société civile gondouanaise, ne leur laissant aucune liberté de manœuvre, pas le droit de manifester, pas le droit de sortir du pays, pas le droit de parler dans les médias gondouanais, rien de rien. Tout le monde était sur le dos de notre leader bien-aimé. Les syndicats qui n'ont que la grève à la bouche, on va faire grève, on va faire grève. Les étudiants qui ne pensent qu'à leur bourse, les défenseurs des consommateurs pour qui la vie devient trop chère, les prix ne font que monter, et pour eux, tout ça, ben c'est de la faute de ce méchant président fondateur. Puis, boum, badaboum, voici le méchant absolu, le méchant du film, Vlad le Costaud, qui fait son entrée à la une de l'actualité. Comme dit le Becherel, quand des méchants se suivent, ben le plus méchant met tous les autres à l'infinitif. Aujourd'hui, Vlad a mis tous les bad boys à l'infinitif, il les a relégués loin à l'arrière du bus, loin dans les dernières pages des journaux entre l'horoscope et les avis et communiqués. Tous les maltraités de l'actualité disent merci à Vlad d'avoir pris toute la lumière sur lui et détourné les caméras de leurs bobines à eux. Mon ami, on t'embêtait parce que tu as fait un coup d'état et que tu veux un quinquennat cadeau? Ben dis merci à Vlad. On t'enquiquinait pour des milliards tombés du camion? Dis merci à Vlad. On te harcelait pour des fêtes alcoolisées pendant le confinement? Dis merci à Vlad. Tu as une campagne électorale dans quelques jours et tu n'es pas encore officiellement candidat, ben dis merci à Vlad, parce que tu n'auras même pas besoin de la faire, cette campagne. Tu as déjà gagné. À demain.
À demain, Maman. On vous retrouvera bien sûr sur RFI. En attendant, je remercie Didier Chérouse qui était à la réalisation. Et en attendant, on retrouve tout de suite Andréane Mélard pour le début de RFI Matin. Bonjour Andréane.
Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h pour 3h d'infos, de chroniques, d'invités et de reportages. Ce matin, on va beaucoup parler de l'Ukraine, de la Syrie, de la Guinée, de la République démocratique du Congo. On revient aussi ce mardi sur cette collision hier en mer du Nord entre un cargo et un pétrolier. On va aussi parler sport. Foot européen, puisque ce soir c'est le début des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, soirée spéciale sur RFI pour Liverpool-PSG. Dans une minute, le journal.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix en partenariat avec l'INA, Adobe et Aprim Publishing.